Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». C'est une joie renouvelée aujourd'hui de recevoir le docteur Denis Strubel. Je vous rappelle que Denis Strubel est gérontologue et a été chef de service de gérontologie à Serre-Cavalier, pôle gérontologique rattaché au CHU de Nîmes. Denis Strubel est aussi vice-président de l'association France Alzheimer Gare. J'ai eu la grande joie de travailler avec elle. Bonjour à vous, docteur Strubel.
Bonjour, docteur Jaume.
J'ai voulu intituler cette émission « Là où le malade atteint de la maladie d'Alzheimer reste une personne ». À la suite d'une mésaventure qui m'est arrivée et qui m'a beaucoup interrogé et fait réfléchir. Je me permets de vous la résumer. Je désirais faire témoigner une personne pour la qualité exceptionnelle de son engagement professionnel. Elle l'avait accepté et cela lui faisait très plaisir. Elle me décrivait même une sorte de joie qu'elle semblait avoir oubliée. Cette personne venait juste à se dire d'être diagnostiquée Alzheimer. Mais cela, c'était sans compter sur un entourage qui s'était néo-formé autour d'elle, car elle n'a pas de famille directe, et qui, avec virulence et une très grande agressivité, s'est opposée à cette démarche. Bien évidemment, contre l'avis de l'intéressée, et surtout sans tenir compte de son plaisir, d'une joie qu'elle retrouvait dans sa vie. J'ai été très choqué, car pour moi, une et un malade est avant tout une personne. La personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer n'a donc plus son mot à dire, et la maladie peut la placer sous l'autorité de personnes pouvant même lui être étrangères. Qu'en pensez-vous, Denis Strubel ?
C'est un combat majeur pour toutes les professionnels qui s'occupent de ces malades, mais et aussi de l'association France Alzheimer. C'est de laisser à la personne malade son statut de personne, avec la possibilité de choisir un certain nombre, enfin de prendre des options pour sa vie personnelle, de pouvoir dire non à éventuellement même à des propositions thérapeutiques. Donc ça, c'est un combat majeur pour nous. C'est la personne est une personne, reste une personne, reste un citoyen. Bon, France Alzheimer aussi depuis une année avant le Covid, a mis en place aussi un dispositif qui est national, qui est la signature de charte ville aidante Alzheimer, dans cet esprit de l'inclusivité des personnes qui doivent rester des citoyens à part entière et que les municipalités doivent veiller de manière un peu privilégiée sur ces personnes-là.
Et France Alzheimer Gare a signé des conventions avec certaines communes du département.
Alors nous avons, tout à fait, nous avons signé la charte avec le département. Donc là, c'est une charte conseil départemental aidant Alzheimer, ça depuis longtemps. Et à l'heure actuelle, une vingtaine de villes ont signé la charte. Alors, ça pourrait être beaucoup plus, mais il faut imaginer que derrière une signature de charte, on essaye de mettre en place des actions spécifiques.
Oui. Il y a des petites communes qui n'ont peut-être pas la possibilité de...
Nous non plus, au niveau de l'association. On repose sur des bénévoles, et le bénévolat, ça a des limites.
D'accord.
Donc, c'est tout à fait dans cet esprit-là, de l'inclusivité, de la notion d'inclusivité, et puis la personne reste une personne, peut s'exprimer, d'abord, ça se traduit par le fait que maintenant, le diagnostic est donné à la personne malade au début. Avant, c'était la maladie, la famille supposée.
Oui, cachée.
Là, maintenant, le diagnostic est indiqué et puis la personne participe au choix des actions thérapeutiques qui lui sont proposées.
Donc les malades peuvent dire oui ou non, peuvent choisir ce qu'ils ont envie de faire, surtout si cela rapporte du plaisir et de la joie. Quand je pratiquais, le médecin était un peu un référent là-dessus. C'est-à-dire que bien souvent, il m'est arrivé de prendre des décisions pour protéger des gens qui étaient mis sous la coupe d'autres et qui leur empêchaient de vivre. Et donc c'était, à mon avis, le devoir du médecin. Et c'est très très bien si les associations peuvent aider les professionnels de santé qui ont encore cette déontologie.
Alors pour pousser même, je peux dire que France Alzheimer porte ce sujet à cœur. Depuis maintenant au moins 5 ans, il y a une radio
oui.
France Alzheimer, avec des émissions faites que par des personnes malades.
Donc ça, c'est pas une radio concurrente, c'est une radio synergique.
Absolument.
Hein. Bon, mais c'est bien.
Il y a une émission, je crois, tous les 15 jours, qui est animée que par des personnes malades.
Donc mon idée n'était pas mauvaise de faire participer quelqu'un, même si elle avait été diagnostiquée maladie d'Alzheimer, puisque l'association France Alzheimer le fait. Pouvez-vous nous dire si les malades d'Alzheimer ressentent du plaisir ? Dans une autre émission précédente, on a parlé de qualité de vie, ont des projets, quel est leur état d'esprit ? Sont-ils toujours déprimés ou détachés du monde ? Ou n'ont-ils pas le droit de prendre de plaisir à faire, à entreprendre ?
Alors, je crois que ce qui est important de dire et que les familles doivent... C'est quelque chose qu'on répète beaucoup. C'est, la maladie touche les fonctions cognitives, donc altère les fonctions intellectuelles, mais n'altère pas tout ce qui est du domaine de l'affectivité, de l'émotivité. Donc, ces personnes ressentent les émotions... peut-être même parfois de manière exacerbée. Oui. Donc voilà, donc la notion de plaisir ou de déplaisir, ils le ressentent parfaitement. Et bon, vous demandez s'ils sont toujours déprimés, ils le sont assez souvent, surtout au début de la maladie, mais ils ne le sont pas forcément. Chaque personne qui fait une maladie d'Alzheimer le fait à sa manière, en restant avec sa personnalité. Donc ça se reflète, la personne qui a été quelqu'un de colérique toute sa vie va rester colérique, et ça va peut-être même accentuer.
Il garde sa personnalité.
Voilà, il garde sa personnalité. Et bon, ça arrive qu'il y ait des personnes avec une maladie d'Alzheimer qui se présentent comme des personnes heureuses. Oui. Ça existe.
Et pas souvent déprimées, coupées.
Pas forcément.
Alors, ce qui est important, vous l'avez dit, ce sont des personnes qui aiment toujours. Je peux vous donner un exemple qui m'est venu en préparant l'émission. Je me rappelais d'un patient qui était diagnostiqué Alzheimer, évidemment, qui avait des problèmes de mémoire. Donc, il avait perdu son conjoint et qui demandait à ses enfants de nouvelles son conjoint. Chaque fois, les enfants lui annonçaient que le conjoint était décédé. Donc, c'était une mort annoncée régulièrement. On avait demandé aux enfants d'essayer de ne pas forcément lui dire chaque fois, parce que c'était un deuil régulier, quoi. Une annonce, une mauvaise nouvelle régulièrement. Donc il faut être fragile, il faut être sensible, parce que ce sont des personnes qui aiment, et donc leur sentiment, le fait d'aimer n'est pas altéré.
Alors, il faut toujours s'adapter à chaque personne. Hein. Dans la relation, il y a des cas où il faut effectivement masquer un peu des vérités qui sont trop douloureuses, mais il ne faut pas non plus mentir systématiquement aux personnes.
Non, on ne peut pas mentir, mais il faut s'adapter. Ouais.
Voilà, il faut s'adapter, il faut rejoindre la personne où elle est.
Voilà, c'est ça.
Où elle est par rapport à sa maladie, par rapport à son entourage, et faire que... Et je dirais qu'il y a un maître mot aussi, c'est toujours... Il faut toujours rassurer.
Voilà.
Parce que ce sont des personnes qui sont facilement anxieuses parce qu'elles ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive et réagissent souvent sur le mode anxieux. Et l'anxiété, ça, quand ça s'emballe, ça peut donner de l'agressivité, etc.
Et puis, l'anxiété, donc, c'est toujours désagréable, c'est une souffrance. Donc,
c'est
le médecin doit la combattre et pas en générer.
Oui.
Et à quel moment les malades de maladie d'Alzheimer doivent-ils être mis sous protection ou tutelle ou curatelle ? Et par qui ? Et quelle est la différence entre tutelle et curatelle ?
Alors, c'est là aussi au cas par cas. Quand il y a une situation familiale, un entourage aimant, qui s'accorde, qui est dans l'harmonie, souvent, il n'y a pas besoin. Quand il y a un entourage qui s'entre-déchire, notamment pour des raisons de patrimoine, là, il y a forcément indication. Donc, c'est toujours au cas par cas. Alors, quand la personne rentre dans un EHPAD, l'EHPAD préfère aussi qu'il y ait une mise sous protection juridique, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est au cas par cas. Alors, il y a un dispositif qui existe depuis des années, au-delà de la tutelle et de la curatelle, qui est insuffisamment connu et qui permet d'associer la personne elle-même à ce futur où elle aura besoin d'aide. C'est le mandat de protection future.
D'accord, très bien.
C'est-à-dire que la personne elle-même, il faut qu'elle connaisse sa maladie, peut accepter l'idée d'un jour d'avoir besoin d'aide et de désigner elle-même la personne qui l'aidera dans les démarches, dans la gestion de ses biens, etc. Et donc, la personne désigne son mandataire, c'est devant notaire, Et puis le moment où elle n'est plus en capacité, ce dispositif va se transformer en tutelle ou curatelle selon le cas. Donc ça, c'est vraiment...
Excusez-moi, un peu dans l'esprit de la personne de confiance lorsqu'il y a hospitalisation. Actuellement, oui, quand on rentre à l'hôpital, on désigne...
Ça va beaucoup plus loin que ça.
Oui, ça va plus
loin.
Ça va plus loin. Il y a une personne de confiance. Mais là, c'est une personne de surconfiance
qui est désignée
par le malade lui-même. Donc c'est
lui-même,
une liberté
devant notaire. Voilà. Et alors, la tutelle et la curatelle, c'est ça, ce dispositif classique. C'est la différence, c'est une question de degré. La curatelle, la personne a besoin d'être simplement assistée. Et la tutelle, elle a besoin qu'on fasse tout, dans la gestion des biens, des décisions du lieu de vie, etc.
Donc, c'est une décision de justice, c'est un juge qui décide.
Alors la procédure, c'est la famille initie, va remplir un dossier, va demander une expertise par un médecin expert désigné par le tribunal, etc., dépose le dossier, c'est le juge qui décide.
C'est le juge qui décide.
C'est le juge des tutelles, des protections juridiques, et que c'est lui qui décide en dernier recours si c'est une curatelle ou une tutelle, et c'est lui qui désigne le curatelle ou le tutelle.
C'est une question que je dois vous poser. Alors, que peut-on faire si des étrangers, entre guillemets, prennent un certain pouvoir, une emprise sur un malade dit Alzheimer?
Alors, c'est vrai, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, qu'il y a un risque de maltraitance.
Je vous poserai une question sur la maltraitance.
Au sens large, il y a danger.
Autour d'un malade qui est diagnostiqué Alzheimer ou qui a une maladie d'Alzheimer sans forcément diagnostiquer et qui est un groupe de personnes ou une personne...
Pour moi, c'est déjà de la maltraitance.
Oui, c'est déjà...
c'est déjà, on rentre dans ce champ-là.
Qu'est-ce qu'on peut faire
Bon, si la personne n'a pas de famille, il faut qu'elle soit protégée juridiquement très tôt. Donc, curatelle probablement.
C'est ton médecin à saisir le juge.
Éventuellement à...
C'est ce que je pense.
On peut faire s'il y a un danger de manipulation, si un professionnel pense que la personne fragilisée est manipulée, fait l'objet de manipulée même psychologiquement, on peut faire un signalement au procureur de la République.
Voilà, c'est ce que...
Mais il faut être sûr de son affaire.
Mais ça peut être sentiment. Je veux dire, on peut dire... Je pense que...
Alors, prudence,
Il faut être prudent.
Voilà,
mais
il faut avoir des arguments.
Il faut avoir des arguments, oui. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM. Mais aussi, vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Nous recevons aujourd'hui le docteur Denis Strebel qui nous parle de « Là où le malade atteint de la maladie d'Alzheimer reste une personne ». Je vous propose une pause musicale en écoutant Georges Friedrich Händel, menuet en sol mineur par Anne Kefelek. Thank you. Quand les patients atteints de maladie d'Alzheimer sont sous tutelle ou curatelle, ou cette nouvelle procédure que vous nous avez indiquée, quels sont les droits qu'il leur reste ?
Alors, les protections juridiques concernent essentiellement les biens. Ce qui reste toujours au patient, c'est de donner son avis sur l'adhésion à des traitements. Hein. Par exemple, si on lui propose un essai thérapeutique, même sous tutelle ou curatelle, si on pense que son avis... qu'il a compris à peu près la question posée, ça n'est pas géré par la tutelle ou la curatelle.
Oui.
De même, le lieu de vie. Une personne, sous curatelle, si elle ne veut pas rentrer en établissement, mais en EHPAD...
Oui, donc c'est important
garde ce droit-là de dire non. Ceci dit, c'est un énorme problème. Hein. Oui. Comment on fait dans ce cas-là hein? Quand on estime qu'elle est en danger chez elle, elle ne réalise pas suffisamment ses difficultés et qu'elle ne veut pas rentrer en EHPAD, ce n'est pas une situation simple.
Bon, d'accord.
Hein. Mais il garde effectivement des droits fondamentaux.
C'est important, notamment la relation médecin-patient. Quoi. Le médecin et son patient, une relation singulière. Il n'est pas obligé qu'une maladie d'Alzheimer soit toujours accompagnée d'un tiers, ce qu'on voit beaucoup en consultation. Il a l'impression de toujours être accompagné. Il y a des moments où il peut être seul avec son médecin ou une psychologue ou une infirmière.
Oui, enfin, ou je le conçois autrement, parce que quand j'ai fait beaucoup de consultations, à la fois de diagnostic et de suivi, dans une consultation de ce type, il y a un temps malade et un temps aidant.
Oui, toujours. Hein.
Mais le malade est en premier.
Voilà,
parce que
ça.
Souvent, la consultation, c'est l'aidant qui...
C'est l'aidant qui
prend la place tout de suite. Et je dis non.
Oui, on peut faire une consultation en deux temps.
Oui.
Une temps patient, où il y a une intimité,
oui.
une relation,
oui.
où des choses se disent. Et puis après, un temps de partage avec l'entourage pour qu'il y ait une synergie.
Les informations de l'un et l'autre vont être complémentaires. Hein.
Alors, en général, qui est désigné comme tuteur au curateur par le juge ? Dans la procédure que vous nous avez expliquée, c'est le patient qui désigne quelqu'un, donc ça, on a compris.
Ça, c'est le mandat de protection.
Le mandat de protection, il va dire, ça va être mon frère, ma fille, ma cousine, etc.
Ouais.
Là, s'il y a une curatelle ou un tuteur, c'est le juge qui décide. Donc,
il va prendre de préférence quelqu'un de la famille, un proche, de préférence. Plutôt que, parce que l'alternative après c'est faire appel à une association, à un curateur qui va être rémunéré pour son activité hein.
Oui.
Mais de préférence on prend un proche qui soit le plus consensuel possible.
Voilà, c'est-à-dire quand il y a une fratrie, mettons de 3, 4 ou 2, il faut qu'il y en ait un qui soit désigné comme référent.
Alors, il y a,
ou tutelle,
dans
ou
une fratrie, autour d'un malade de ce type, il y a toujours, pratiquement toujours, un des enfants qui est en première ligne.
Voilà, toujours.
Est logiquement... mais quand il y a conflit, le juge va préférer
alors,
désigner
voilà. C'était
quelqu'un
ma question
d'une
qui
association.
Venait, dans la mesure où un membre... Oui. Alors, est-ce que ça peut être aussi désigné... Un membre qui n'est pas de la famille, un cousin, une cousine, allons jusqu'au voisin. Si voisin, moi j'ai vu des voisins qui s'occupaient très bien. Leur voisin, on peut...
C'est possible, ça relève du juge.
C'est le juge qui décide.
C'est le juge qui décide. Parce que de toute façon, celui qui va être désigné va quand même rendre des comptes.
Et rendre des comptes au juge, c'est le juge qui mène tout. Hein. Une curatelle et tutelle, c'est le juge qui est le patron. Et c'est lui qui gère...
Les curateurs et tuteurs doivent lui rendre compte une fois par an de leur gestion.
Alors, à part la famille, hein, un membre qui pourrait prendre la place de la famille, qui n'est pas désigné, qui peut être tuteur ou curateur ? C'est-à-dire que le juge, si la personne a désigné...
Il s'appelle aux associations.
Alors,
aux
les
associations de tuteurs, de curateurs.
Voilà, ce sont des associations. Voilà, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels qui vont être payés pour jouer...
Ils touchent un petit pourcentage de l'argent qu'ils gèrent. Et ils ont toujours plusieurs personnes à superviser.
D'accord.
Alors, ce n'est pas l'idéal parce que, comme ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer, puis c'est une relation beaucoup plus distante que si c'est quelqu'un de la famille, bien
oui,
sûr.
Oui, par expérience, quand c'est la famille, c'est toujours plus plastique, plus fluide, plus il y a de l'affectif, il y a de la compréhension, etc. Les tuteurs le font très bien, mais comme vous dites, ils ont plusieurs personnes.
Oui, ils sont.
Donc c'est un peu plus. Moi, je l'ai beaucoup vécu en psychiatrie. C'est pas pareil. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais des fois, on est bien obligé. Quand il n'y a pas aucune famille, il faut bien que ça soit quelqu'un qui soit intéressé, à investir quand même. Et toujours. Et alors, on a parlé beaucoup de la joie, du plaisir. Je coupe un peu les questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients d'Alzheimer, malgré cette situation, malgré le fait qu'ils soient sous tutelle ou qu'ils soient dépendants de quelqu'un, qui vous parlent quand même de la joie, de leur accompagnement, de leur plaisir ? Enfin, est-ce qu'une maman ou un papa, si un de ses enfants s'en occupe, est-ce que par là, elle trouve un peu un certain épanouissement, une aide ? Est-ce qu'ils prennent plaisir de l'aide ?
Quand cette aide est bienveillante,
oui, bien sûr, oui.
Hein, quand elle n'est pas autoritaire, quand elle fait très attention à ce que souhaite la personne malade, oui, ces personnes malades sont beaucoup dans la relation, ils recherchent la relation. Hein. Il y en a peu où c'est vraiment au stade ultime de la maladie, où il y a un repli sur soi, mais très longtemps, ce sont des personnes qui recherchent la compagnie. Moi, à France Alzheimer, on fait des groupes, il y a ce qu'on appelle la halte répit, où pendant une après-midi, il y a un petit groupe de personnes malades avec deux animatrices. Mais c'est des parties de rigolade.
Oui, ce sont des patients attachants et des fois heureux
souvent,
qui apportent.
Très souvent, très attachants, absolument. Et il y a des relations privilégiées dans les EHPAD qui se créent entre des soignants et ces personnes malades. Les soignants le savent très bien. Il y a des gestes d'affection qui se font dans les deux sens. Hein.
Quand j'étais interne à Villemain, j'étais donc un gérontologie, c'était un peu la gérontologie d'avant, quoi. Hein. Et il n'y avait pas d'entrée tous les jours, hein, donc on avait un peu de temps. Et donc je m'essayais souvent au lit des patients qui me racontaient, c'était pas encore l'Alzheimer de maintenant, c'était une richesse, une histoire qui était extraordinaire. Donc il y avait beaucoup de plaisir et beaucoup d'échanges.
Oui, et ils ont des capacités qui se révèlent. Sous l'effet, alors souvent les familles en côté un peu étouffant, on l'a évoqué, mais quand on laisse à la personne, quand on crée un climat favorable autour d'elle et qu'on attache une attention particulière à ce qu'elle va exprimer, ce qu'elle va savoir faire, on est étonné de ce qu'ils peuvent faire. Donc l'utilisation des ressources restantes, c'est, je ne l'ai pas dit à l'émission précédente, mais c'est la base des approches non médicamenteuses. On va essayer de valoriser tout ce qui est restant.
C'est un peu l'image qu'on a des les petits-enfants aiment leurs grands-parents parce que justement il y a cette créativité des grands-parents, pas forcément les parents. Quoi, hein. Et alors, après, maintenant, permettez-moi d'aborder ici un problème quand même que je pense primordial et je pense que vous aussi, c'est la maltraitance des personnes âgées. Est-elle importante et comment y remédier ?
Alors, les personnes âgées sont, de façon générale, ont une certaine vulnérabilité quand elles sont isolées. Alors, d'autant plus s'il y a un déficit cognitif, s'il y a une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Donc, ce sont des proies pour des prédateurs. Hein, on peut appeler ça des prédateurs qui vont s'intéresser. Le plus simple à comprendre, c'est l'aspect financier et qui vont détourner de l'argent sous le prétexte de les aider. Ça peut être des voisins, ça peut même des professionnels qui vont au domicile, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des détournements. Ça peut être quelqu'un de la famille qui va influencer la personne pour qu'elle la favorise sur le plan financier. Alors comment, quand on repère, quand on est extérieur à la famille, quand on, comme professionnel, ben il faut être attentif à ça, le dénoncer, mais en prenant beaucoup de prudence et faire un signalement au procureur quand on a des arguments.
En posant des questions, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire d'enquête, on n'a aucun moyen. En fait.
Voilà, et en s'appuyant sur les... Ne pas rester seul. Quand on est, comme professionnel, confronté à ça, ce qu'on le dit aux infirmiers, infirmière, enfin c'est parlez-en, à demander l'avis du médecin traitant, enfin partager oui, quelque chose pour
Médecin traitant peut demander un avis spécialisé au gérontologue, au neurologue, au psychiatre pour avoir un document pour pas être seul. Ben, il me reste à remercier infiniment le docteur Denis Trubel pour son expertise et ses éclaircissements. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui, le livre de Denis Trubel, Prise en soin du patient Alzheimer en institution, édité en 2006, Geneviève Demours et Denis Trubel chez Masson, Les droits des malades, Anne Lode, Didier Tabouteau, Que sais-je, édité en septembre 2018, Les droits des patients, Caroline Lantero chez LGDJ, Refus de soins et actualité sur les droits des malades en janvier 2012. Les auteurs sont Brizy Stéphane, Anne-Laure Didier, Tabuteau, De Vries, Jean-Paul. Les éditeurs, c'est les presses. Alors là, je vais épeler parce que je ne sais pas comment on le dit. C'est E-H-E-S-P. Et je vous rappelle les coordonnées de France Alzheimer 30 gares et maladies apparentées. 11 places du Calvaire, 30 320 Marguerite. Les téléphones 04 66 21 03 09, le 06 17 87 63 56. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé, un trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus.